Mais si se termine cette saison drôle de saison 2019-2020, je me suis dit pourquoi pas avoir nos deux hommes chez le Canadien de Montréal, nos deux hommes que vous attendez sur l'ensemble du réseau Cogeco. Martin McGuire, Danny Dubé sont avec nous. Salut messieurs.
Allô Jérémy.
Salut Jérémy.
Content que vous soyez là messieurs. Dans un premier temps, je vais y aller avec Danny. Danny, à la lumière de ce que tu as vu de ces séries 2019-2020 présentées dans les villes bulles de Toronto et de Edmonton, comment tu peux définir ce que tu as vu, point de vue hockey, point de vue ambiance, point de vue organisation? Comment tu définis ces séries?
Ben moi, j'ai aimé les séries. J'ai trouvé que le jeu était propre et excitant. On n'a pas eu, il n'y a pas trop eu chez nous, de coups de cochon. Ça a été quand même, de façon générale, assez propre comme hockey. Mais
Gallagher ne serait pas d'accord avec toi. Là, mais...
Non, mais il n'y en a pas eu beaucoup.
Oui,
tu sais, il n'y en a pas eu beaucoup. Là. Des fois, dans les séries...
Seulement deux
là,
suspensions.
Oui.
Tu sais, dans les séries, d'habitude, là, t'en vois, là. Ça revole. Mais là, t'en as pas eu beaucoup. Comme Martin dit, deux suspensions, c'est pas beaucoup. Bon, ceci étant, écoute, ce qui est fascinant, c'est que tu redécouvres des joueurs avec une facette qui, pour moi, était importante dans dans la bulle. C'était pas de voyage, du temps pour te reposer, du temps pour guérir les bobos aussi. Parce que ton staff, ton médical, tout ton monde est là. T'as un joueur qui est blessé, tu peux travailler avec, tu peux le ramener dans l'alignement, etc. Je pense que ça a eu un impact sur les performances en général des joueurs. Et rendons crédit aux joueurs, ils ont été super disciplinés, ils ont respecté les règles, etc., etc. Donc, on a eu une belle compétition.
Martin, ton côté?
Écoute, j'ai des chiffres devant moi, messieurs. 33 394 tests de COVID qui se sont avérés négatifs. C'est quand même impressionnant. Ça, là, ces 33 000 tests-là, ça représente les 52 membres de chacune des 24 équipes qui s'est présentée là. Non seulement ça, mais aussi les gens de la Ligue nationale qui étaient autour des équipes, le personnel de soutien. C'est vraiment un tour de force qu'a réussi l'association des joueurs, parce que je les inclus là-dedans. S'ils n'avaient pas été là et collaborateurs de l'autre côté de la table, on n'aurait pas eu ce résultat-là. On n'aurait pas eu du bon hockey cet été, mais ils ont été là. Mmh. Et Gary Bettman et son équipe de propriétaires. Honnêtement, là, Jérémy, le hockey et le basketball sont probablement les sports qui ont le mieux paru dans ces saisons écourtées et dans ces événements de bulle jusqu'à maintenant. J'inclus pas la NFL là, parce que la NFL travaille pas dans une bulle. Mais le basketball et le hockey sont les deux sports qui s'en sont le mieux sortis. Et pour ce qui est du spectacle sur la glace, j'abonde dans le même sens que Danny. On a eu des surprises, mais on n'a pas eu de surprises invraisemblables qui auraient, affecter la qualité du spectacle. Les deux équipes là, qui sont arrivées au bout, en haut de la pyramide, Dallas d'un côté et Tampa Bay de l'autre, c'était des équipes qui avaient mérité leur place. T'sais, Dallas avait renversé les Golden Knights de Las Vegas. C'était une grosse pointure. Ils ont mérité leur place en finale. Le Lightning de Tampa Bay a été une équipe impériale du début jusqu'à la fin. Moi, je retiens ça en particulier.
Danny, je veux savoir, Mario Landlot, tantôt, me faisait remarquer comment il a apprécié de voir le Lightning de Tampa Bay inclure Gary Bettman. Pour une des rares fois, on a senti que c'était la grande famille du hockey sur la patinoire. Martin t'en a parlé, l'Association des joueurs et la Ligue nationale ont travaillé de pair pour arriver à ce résultat. Mais de voir ça hier, c'est vraiment la célébration du hockey de la Ligue nationale. Quand tu vois Bettman qui est là avec la Coupe Stanley, avec le Lightning, on a senti un esprit d'équipe, honnêtement.
Oui, bien, en fait, c'est une grande victoire pour la Ligue nationale d'avoir réussi ce qu'ils ont réussi. Puis, bon, c'est un peu le mélange de tout ce que Martin vient de mentionner. Puis, je trouve, on en a parlé en dehors des ondes, Martin et moi, à quelques occasions, là, tu sais, on voyait ça se dessiner au début, puis on était sceptiques. On disait, comment ils vont faire? Écoute, comment ils vont faire? Ça n'a pas de bon sens. Ben, ils l'ont réussi. Alors, c'est sûr que Bettman, c'est une grande victoire pour lui comme commissaire. Ça a été un rassembleur. Moi, je pense que c'est la chose la plus importante qu'on doit demander à un leader, c'est d'être un rassembleur. Et c'est ce qu'il a fait.
C'est ce qu'il a fait avec brio. Maintenant, d'un point de vue hockey, je veux souligner la victoire du Lightning du Tampa Bay. Puis je suis convaincu que vous serez pas mal d'accord avec moi. C'est un club qui... qui était supposé de gagner l'an passé, qui a connu des difficultés. Et j'ai beaucoup aimé les propos de John Cooper qui dit « Qu'est-ce qui vous a amené à cette victoire cette année? » Il dit « Tu sais, le fait là, de connaître l'échec l'an passé, bien, ça nous fait apprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner. » On se souviendra, si on fait sortir l'an passé en première ronde, en 4 matchs face aux Blue Jackets de Columbus.
Oui.
Mais chapeau au Lightning de Tampa Bay. Quelle performance! Privé de Steven Stamkos quand même.
Et écoute, les phrases... Tu sais, John Cooper, là... Tu peux lui donner la Coupe Stanley là, ce soir là, avec son équipe, là, mais tu peux lui donner probablement là, le trophée du meilleur orateur pendant les points de presse durant toute cette bulle-là. Il a été excellent, fidèle à son habitude. Il avait des lignes formidables. Il répondait aux questions avec beaucoup de calme, beaucoup de flegme. Puis il en a lâché une bonne. Après la victoire en 5 périodes de prolongation contre les fameux Blue Jackets, ça, Jérémy, c'était leur premier match des séries après le tournoi à la ronde qu'ils ont joué, eux, là, pendant que le Canadien, les Pingouins, tout ça, faisaient la ronde de qualification. Mm-hmm. Ça va en 5 périodes de prolongation. Ils gagnent grâce à Braden Point. Après le match, on lui dit « Est-ce que tu as pensé à l'année passée? » Il dit « Oui, j'ai eu 422 jours pour y penser. » ça, c'est le genre de ligne que nous a sorti John Cooper presque tout le long des séries. Puis vraiment, Jérémy, je pense, je sais pas ce que Danny en pense, mais moi, j'ai regardé ce match-là d'un bout à l'autre, de la première à la dernière minute. Puis je pense que la Coupe Stanley du Lightning de Tampa Bay, elle a commencé à se bâtir lors de ce match-là.
Danny, de ton côté?
Ben oui, Martin, tout à fait raison. Il y a des points culminants, là, tu le vis, quand tu es dans l'action, tu te dis, OK, tu les identifies pas, mais tu sais qu'ils vont arriver. Et évidemment, là, le 5 périodes de prolongation, tu le perds, ça, t'imagines que faut que tu retournes dans ton petit coin, puis tu lèches tes plaies, puis tu te reprépares pour un autre match, c'est pas évident, là.
Ah, puis là, tout le monde te rappelle que tu en as perdu 4 l'année passée contre Columbus. Là, c'est la 5e d'affilée que tu perds contre eux. C'est ta bête noire. Puis l'autre affaire aussi dans le parcours du Lightning que j'ai trouvé intéressant, leur 2e bête noire, c'était les Bruins de Boston. Mm-hmm. Tu te souviens, Danny, combien de fois quand on est allé là-bas à Tampa puis on voyait les gars grimacer « Ah, c'est Boston qui s'en vient la semaine prochaine. » Tuukka Rask a toujours eu le numéro du Lightning. Là, Tuukka Rask n'était pas devant le filet. Puis je pense que le Lightning, sans diminuer leur performance, ils ont su en profiter. Ils ont maté les Bruins de Boston. C'était important pour eux de passer à travers ça. Puis après, ben, ils ont réussi. Ils avaient la force de caractère nécessaire pour résister aux coriaces Islanders qui les ont poussés, disons-le, là, dans des retranchements, là, vraiment, physiquement. Elle a été dure, cette série-là.
Messieurs, je veux juste faire une petite parenthèse parce qu'on apprend, c'est sorti tout récemment, qu'Henrik Lundqvist des Rangers de New York serait racheté par les Rangers demain. Donc, lui qui
reste... Pas surprenant.
Un an, 8,5 millions. On a parlé de Tuukka Rask avec la situation qu'il a quitté la bulle. Je vais commencer avec Danny. Crois-tu que Tuukka Rask sera de retour avec les Bruins de Boston?
Écoute, ça va être difficile pour lui de revenir. J'essaie de m'imaginer comment il va être dans le vestiaire avec ses coéquipiers, dans l'entourage. Mais déjà, on entendait des rumeurs à l'effet que, bon, je ne sais pas si ces rumeurs-là étaient fondées, mais lorsqu'il a pris sa décision, c'est venu comme en rajouter une couche sur cette... que lui pensait déjà à tirer sa révérence. Écoute, il n'est pas vieux, là, mais comme ça, il y en a des athlètes qui, après un certain temps, ne sentent plus l'appel. Tu sais, faut que t'aies... C'est demandant, là. Une carrière dans la Ligue nationale, les gens voient... Et on s'assoit chez nous, dans notre salon, on regarde le téléviseur, on écoute la radio, puis on écoute les matchs, mais eux, là, c'est soir après soir. Donc, il semblerait là, que lui est en fin de parcours. Dans le cas de Lundqvist, c'est un... Écoute, là-bas, c'est une icône. Lui, là, je pense pas qu'il va jouer ailleurs. Moi, je pense que si on lui a proposé un rachat et qu'il a accepté, c'est pour tirer sa révérence. Et il va le faire
Il voulait pas être échangé, Danny.
Non, c'est ça.
Il voulait pas être échangé.
Et mon point, c'est pas d'être échangé, c'est qu'il va pas accepter d'offres ailleurs. Il va pas continuer, il va pas aller ailleurs. Moi, je pense que lui, c'est le genre de bonhomme qui... Et premièrement, qui va prendre un gars comme lui pour le placer au bout du banc, là? qui va faire l'embauche d'un gars comme lui pour dire, ben regarde, on va se partager le contrat, on va se partager, pardon, le travail entre deux gardiens de but. Je vois pas cette situation. D'ailleurs, avec les Rangers, ça n'a pas été un succès. C'est un joueur en fin de parcours, c'est un joueur fier, un grand compétiteur, mais là, je pense qu'on est à la croisée des chemins.
OK, donc tu dis Lundqvist pour arrêter. Selon toi, est-ce que Tukaras va arrêter?
Ben, selon toute vraisemblance, oui.
OK.
J'ai ce feeling-là. Ben, je ne sais pas ce que Martin en pense, mais moi, c'est mon feeling.
Écoutez, moi, pour avoir lu un peu sur le sujet Tukarask, il s'est pas dit beaucoup de choses avec des guillemets ouverts. C'est-à-dire que depuis que Rask est parti, il n'a pas parlé aux médias. Mais à mots à peine couverts, les gens qui couvrent les Bruins de Boston de façon régulière semblait dire que sa situation familiale était compliquée. Okay. C'est quoi une situation familiale compliquée? J'en ai aucune idée. Alors, tu sais, si la situation familiale ne s'est pas un peu régularisée au cours des dernières semaines, moi, je vais dans le même sens que Danny. Peut-être pour lui, il va dire, OK, c'est le temps de tourner la page, c'est le temps de faire autre chose, puis c'est le temps de voir à mes affaires importantes, c'est-à-dire, je pense que c'est trois filles qu'il a, là. Mm-hmm. Alors, c'est le temps de voir à l'éducation de mes trois filles puis de me concentrer là-dessus.
Danny, c'est ce qu'il a sorti de la bulle. C'est ce qu'il a sorti de la bulle. Donc,
clairement. Ben oui, définitivement. Ouais. Parce que ça m'amène en même temps, quand je voyais Lundqvist, là, je me disais, est-ce qu'il sera disponible? Tukaras, est-ce qu'il sera disponible? Ça m'amène à parler de Marc-André Fleury avec les Golden Knights de Vegas.
Il vient de prendre la valeur. Hein?
T'sais, écoute, là, il reste 2 ans, 7 millions. Là, t'en as deux gros qui partent. Je regardais Boston. Ça peut-tu être un bon fit pour Marc-André Fleury si jamais Vegas décide de le transiger? Je sais pas comment vous voyez la situation, Danny.
Ben moi, écoute, faire l'exercice, c'est sûr qu'il y a plusieurs équipes qui vont être intéressées à Marc-André Fleury. J'ai l'impression que vraiment là, les offres vont être multiples. Maintenant, on est toujours dans le même registre. Perdez pas de vue une chose, messieurs, c'est que on peut parler d'un plafond puis d'un plancher, mais il faut parler de revenus.
Oui.
Et là, à un moment donné, là, c'est beau, nous autres, on est là, on est en train de faire des sélections de joueurs, mais est-ce qu'on va avoir le budget, là? Parce qu'il y a beaucoup d'équipes dans la Ligue nationale, c'est beau de parler de l'échange, pas de l'échange, mais du partage des revenus, mais s'il n'a pas de revenus, tu partages quoi, là?
Mm-hmm.
Tu sais, on ne sait pas ce qui va arriver, là. On n'a même pas d'idée à quel moment le jeu va reprendre, donc... Moi, je pense que les équipes sont très au fait de ça. Il y a des choses que nous, on ne sait pas qu'eux se partagent comme information. On parle plutôt d'une saison qui commencera en janvier. On sait que ça va être de plus en plus difficile d'avoir une saison complète. Ça va avoir un impact sur les décisions qui ont été prises et les garanties qui ont été données aux joueurs de la Ligue nationale. Voilà. C'est ça.
Écoute, donc, j'entends le point d'interrogation dans ta voix, Danny.
Ouais. Ben oui, mais non, mais si, je suis obligé de le dire. Je suis obligé de le dire. Tu sais, tout à l'heure, je faisais un truc avec RDS et Facebook Live, puis tu sais, les gens veulent savoir quel joueur le Canadien peut être intéressé, joueur autonome. À un moment donné, là, tu peux pas non plus trop t'attacher. Puis dites-vous une chose. En plus, l'année prochaine, l'expansion, là, il y a une équipe qui arrive. Là.
Ouais.
Fait que là, les contrats...
Protège 12 joueurs.
12 joueurs. Fait que là, tu protèges qui? Si t'as trop de contrats, ben là, tu vas perdre des joueurs que tu veux garder parce que tu les as signés. Fait que t'es peut-être mieux de transiger. Alors, écoute, c'est toute une gymnastique qui attend les directeurs généraux là, dans les prochains mois.
Oui. Écoute, tu as parlé des gardiens de but puis de Marc-André. Là, je vais faire une image. Moi, j'ai l'impression que les artistes qui font qui peignent les masques de gardiens, là, et ils vont travailler fort cet été parce qu'il y a des gardiens qui vont changer de ville puis qui vont changer de couleur sur le masque. Moi, je pense que Marc-André Fleury, pour répondre à ta question, là, Marc-André Fleury pourrait fitter à peu près partout où il y a des besoins de gardiens de but.
Ah non, ça c'est clair.
Où il y a vraiment des besoins, là, ce gars-là va être accueilli à bras ouverts. C'est un compétiteur, c'est un bon athlète, c'est un bon coéquipier, c'est un gars qui a toujours fait passer les intérêts de son équipe avant ses intérêts personnels. Ça a été sa marque de commerce. Alors, il va bien aller partout. Faut pas oublier que Braden Holtby, que les Capitals de Washington, à qui ils ont serré la main et ont souhaité bonne chance, lui aussi s'en va sur le marché. Il n'y aura pas beaucoup d'argent pour tout le monde, mais il va en avoir. Tu sais, ces deux gars-là ont des bagues de la Coupe Stanley. Alors, tu sais, des bagues de la Coupe Stanley, quand tu es un gardien de but, quand tout le monde sait que tu peux être un numéro 1, puis que tu peux jouer au moins 55 grosses games, puis d'en gagner au moins 30 là-dessus, ça a une valeur. Puis il y a des propriétaires qui vont accepter de faire un chèque en blanc pour des gars comme ça. Pas beaucoup de propriétaires, mais quelques-uns.
Il semblerait que vous allez animer une nouvelle émission. Martin, peut-être nous donner quelques détails là-dessus?
Ça va parler de cuisine, non?
Bonne idée! Oh, ou de vélo,
Martin,
peut-être, Martin.
Martin va parler de sol.
C'est ça! Non, écoute, à compter de samedi qui s'en vient, donc à 16h, on va donner rendez-vous aux gens sur l'heure du souper pendant qu'ils préparent le lunch du samedi. Dany et moi, on aura le plaisir d'être avec eux pour 2 heures, de 16h à 18h, chaque samedi, d'ici presque la période des fêtes, là, en fait, là, où on va mettre la table, Jérémy, sur la prochaine saison de hockey. Avant de mettre la table sur la prochaine, on va revenir sur les grands moments de celle-ci qui vient de se terminer. Puis la première émission, celle de samedi, va être beaucoup concentrée sur le repêchage. On devrait avoir un bon repêchage au Québec. On va parler à des gens qui ont vu les principaux prospects à l'œuvre au Québec. On va essayer de voir également avec Dany les besoins du Canadien, les besoins de certaines équipes, puis aussi tenter de voir ce qui pourrait survenir parce que il y a des équipes qui ont des banques de choix. Il y en a qui sont prêts à bouger. On apprenait, entre autres, aujourd'hui que les sénateurs d'Ottawa ne tiendraient pas nécessairement à leur 5e choix. Alors, c'est toutes des affaires dont on va discuter à compter de samedi.
Donc, l'émission s'appelle Prolongation, exactement, c'est ça?
Oui.
Exact.
Oui.
Donc,
oui.
Dany...
En fait, je veux juste dire que je crois pas à Pierre Dorion.
Il va avoir des téléphones, Dany.
Oui, il y en a probablement eu un qui était pas à son goût pour le prix, fait qu'il fait monter les enchères, mais ben ultimement, oui. Écoute, c'est une équipe qui a pas beaucoup d'argent, qui cherche à se bâtir, vraiment, fait que je les vois très difficilement échanger un choix aussi haut. Mais bon... On est dans un monde surprenant.
On a un monde de budget, souvent.
Ça, c'est clair.
Donc, juste pour mentionner aux gens, le repêchage, ça sera mardi prochain, le 6. Donc, oui. Évidemment, vous allez mettre la table à tout ça pour ce repêchage qui sera virtuel cette année. Est-ce que, Martin, je vais commencer avec toi, est-ce que tu penses que le côté virtuel va changer la donne un peu sur les négociations de coulisses? On voyait des gars qui se levaient debout dans la salle, oui. Allaient dans l'amphithéâtre, allaient voir l'autre équipe pour être capable de discuter. Est-ce que ça va changer quelque chose, selon toi, d'être en mode virtuel?
Ben, écoute, probablement, moi, je pense qu'ils vont devoir se parler pas mal avant. C'est ce qui risque d'arriver, là. La table va avoir été mise pas mal avant la soirée du repêchage, le 6. Puis après ça, ben écoute, ce qui va arriver, c'est que quand le plan A ne fonctionnera pas, on va aller au plan B. Ça changera pas, qu'ils soient physiquement au même endroit ou qu'ils soient éparpillés dans chacun de leurs quartiers généraux. C'est souvent ça qui arrive, tu sais. T'arrives là avec une idée, là, tout à coup, ton joueur est parti, t'es prêt, t'es ouvert à des discussions, t'en as déjà eu, là, tu finalises le deal. À cause du plafond salarial, je sais pas ce que Dany en pense, mais je pense qu'il va avoir de la bougeotte pour la première soirée, la première ronde.
Ça va être plus difficile pour les directeurs généraux parce que moi, pour l'avoir vécu avec Martin pendant 17 ans, là, on a été... tu vois sur le parquet, tu vois sur le parterre que avant même que le repêchage commence... Comment ça bouge? Comment les gens vont se parler? Tu sais, ils leur demandent pas comment ça a été, là. Puis, tu sais, qu'est-ce que tu as mangé pour souper, là? Ils veulent savoir, hey, on a eu une discussion. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'on t'a offert? Ah, on regarde ça. Tu sais, tout le monde se parle parce que là, on essaie de jauger un peu comment les choses vont aller. Puis, des fois, tu vas juste à la pêche, là. Tu vas parler à quelqu'un juste pour savoir c'est quoi son intention, même s'il veut pas transiger avec toi parce que quelqu'un d'autre te dit que lui, il voulait tel gars qui est ailleurs. Puis, toi, ben, peut-être que ça va te libérer pour aller. C'est un jeu d'échecs. Comprends-tu? Alors là, ça, cette dynamique-là disparaît. Les rencontres qui ont lieu avant, que ce soit, tu sais, puis là, je dis ça très candidement, au bord de l'hôtel ou au restaurant le matin en déjeunant, il y a beaucoup de directeurs généraux qui se parlent, des gens, des dépisteurs aussi qui sont en mission, qui vont voir des choses, surtout ouais. les alliés de toujours. Là, il y en a qui sont plus proches que d'autres, là. Des directeurs généraux et des dépisteurs-chefs, évidemment.
Alors, tu vois,
il allume exactement, Martin. Fait que moi, tout ça, là, toute cette dynamique-là disparaît. Alors, pour moi, ça amène une dimension un petit peu surnaturel. Tu sais, comment ça va marcher, là? Est-ce que, tu sais, la fameuse, la salle avec les vidéos, le war room avec les téléphones, puis là, toi, tu t'occupes de lui, puis tu sais, je pense que ça va être compliqué,
juste
honnêtement.
Les meetings avec les joueurs. Tu sais, souvent, les joueurs sont là, les jeunes, puis on continue à faire des meetings jusqu'à l'approche de la première ronde. Là,
mais c'est... ça va. Ça, je le vois comme assez facile parce que, bon, les vidéoconférences maintenant, c'est du un à un, là. Ça va. Mais toute la dynamique de... téléphone à un, parle à l'autre, là c'est, écoute, là, c'est ça va rendre les communications très complexes.
Les principaux prospects, messieurs, là, je vous dirais là, les 10-12 premiers là, de ce qu'on a entendu quand on a eu l'occasion de leur parler l'autre jour, là, ont réalisé entre 30 et 50 interviews par vidéoconférence avec les équipes. Alors, tu sais, là, on les a décousus sur tous les sens, puis on les a recousus après. On les connaît, Jérémy. Là, tu sais, vraiment, ce travail-là est pas mal fait. Ce qui reste, là, c'est que si l'équipe qui parlait juste avant toi a pris le gars que tu aimes, là, tu es obligé d'aller au deuxième gars que tu aimes. Je pense que quand il arrive le temps des sélections, c'est ça. Et aussi, il y a du talent local. Puis ça, je trouve ça un petit peu excitant cette année. Puis samedi, on va parler à des gens, je le répète, qui les connaissent, qui les ont vus grandir dans le hockey majeur au cours des derniers mois, des dernières années, parce qu'il y a du bon talent local. Il y a du talent local qui peut être disponible aux alentours d'où le Canadien va parler aussi. Alors ça va être intéressant de voir quelle sera l'approche du Canadien si jamais il y a un local qui traîne autour au moment où eux s'exprimeront.
En tout cas, le talent local a démontré hors de tout doute que le Lightning de Tampa Bay est capable de gagner une Coupe Stanley. Fait que j'espère qu'on saisira le message du côté du Canadien.
Et qu'on n'est pas obligé de terminer dans les bas-fonds pour avoir des choix très hauts pour bien repêcher. Ça, c'est deux affaires complètement différentes.
Eh bien là, écoute, Danny, j'aime beaucoup ce que j'entends, mon cher ami. Et surtout, savez-vous quoi? Ça met la table à cette émission qui s'appellera En prolongation. Donc, à chaque samedi de 16 à 18 heures, Martin McGuire, Danny Dubé seront là pour faire un suivi. Évidemment, là, vous savez que le repêchage, c'est mardi prochain. Puis après le repêchage, vendredi.
Les joueurs autonomes.
On a les joueurs autonomes. Écoute, on n'a pas fini.
Les joueurs autonomes. Puis en plus, on n'a pas fini parce que pendant les saisons de hockey, là, tu ne peux pas savoir le nombre de fois que je regarde Danny en lui faisant un petit signe en disant OK, conclu parce qu'il faut qu'on parte à la pause publicitaire. Alors, au cours des derniers mois, des dernières semaines, il y a beaucoup de contenu, Jérémy, sur lequel Danny a travaillé, sur lequel j'ai travaillé, puis qu'on va aussi développer dans les semaines qui vont suivre. On va avoir la chance de l'offrir, de le partager avec les gens, puis de le partager aussi avec des acteurs du milieu du hockey, ce qui va être le fun, bien sûr.
Ben voilà, le rendez-vous est lancé, chaque samedi à compter de 16h. Martin McGuire, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir.
Bonne soirée, Jérémy.
Et M. Dubé, merci d'avoir été avec nous.
Pourquoi il m'appelle monsieur?
Je ne sais pas, j'ai dit ça comme ça. C'est le respect, M. Dubé. Et c'est respect pour Martin aussi. Bon, Danny, merci.
Bonne soirée à vous deux, messieurs.
Voilà. Merci. Salut, Danny. À la prochaine.
Bye.
Ciao.
Merci énormément.